Antidote, une émission qui vous propose une cure de désintoxication mentale par la lecture et la réflexion, des pistes de réflexion à partir de l'analyse d'un ouvrage, juste histoire de ne pas penser en rond et de se laisser bousculer. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Antidote. Je vais vous parler aujourd'hui d'un mot. Un mot, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus banal, de plus commun. Ce mot, c'est justement le mot « commun ». C'est un drôle de terme en vérité, « commun ». Une sorte de pâte guimauve qui peut signifier des choses très différentes. Cela peut signifier « collectif » ou « banal »,« partage » ou « universalité ». Cela peut définir un homme ordinaire ou même un homme relevant d'une extraction basse. Le commun peut aussi qualifier une situation routinière ou renvoyer à l'espace privé ou au contraire à des espaces ouverts, communs, comme la rue, le quartier, la maison. On le voit, difficile de donner une définition unique au mot commun. À l'heure où je vous livre cette chronique, cela fait plus d'un an que nous vivons sous un régime d'exception qui a grandement restreint nos possibilités de vivre le commun. Confinement, couvre-feu, interdiction de déplacement, de réunion, de rencontres, de fêtes, des expressions jusqu'alors inconnues qui fleurent bon l'oxymore sont entrées en quelques semaines dans notre langage courant. Distanciation sociale ou l'art de faire société à distance. Geste barrière, quand le geste n'est plus un signe de rapprochement vers l'autre, mais un signe de repli sur soi. Nos pratiques quotidiennes en ont été modifiées. De nos possibilités de rencontres restreintes jusqu'à un usage différent des espaces publics, espaces communs. Interdiction de regroupement, empêchement de s'asseoir, etc. Nos corps aussi se sont éloignés les uns des autres. De nouveaux usages, s'appuyant sur des applications numériques déjà existantes mais qui restaient marginaux, se sont développés à grande échelle. L'école numérique, le télétravail, les commandes et livraisons de marchandises, sans compter toutes les applications liées au divertissement. Bref, le commun s'est retrouvé en concurrence avec l'immun. Et il a perdu. Immun, immunité. Commun, communauté, versus immunité. Avez-vous remarqué que ces deux mots sont très proches? Ils partagent le même suffixe, munus, du latin. Il signifie présent, cadeau, offrande, mais aussi devoir, charge. Dans communauté, le préfixe co, qui signifie avec, indique que le don est fait à l'autre, il est partagé. Il nécessite une confiance, une ouverture, mais aussi qu'il existe un devoir envers l'autre. Dans immunité, le préfixe un, préfixe privatif, empêche, interdit ce don, cette confiance, cette ouverture, nous délie du devoir envers l'autre. Le philosophe italien Roberto Esposito explique tout cela dans un ouvrage. Alors, je vous rassure, pas du tout de circonstances, puisqu'il a été écrit en 2002, mais qu'il vient d'être traduit en français uniquement cette année. Cet ouvrage a pour titre « Immunitas, protection et négation de la vie ». Et il nous dit « Là où la communauté va lier les membres autour d'un engagement commun, l'immunité les sépare. L'immunité est l'antithèse de la communauté. » Alors, certes, toutes les sociétés ont toujours eu besoin de se protéger, de s'immuniser d'un trop de commun, de le dompter en quelque sorte. On retrouve cette nécessité de protection dans les règles, les lois communes, mais aussi les usages et les mœurs. Les règles de politesse, par exemple, très différentes d'une culture à l'autre, mais partout présentes, sont des règles de vivre en commun qui le circonscrivent, qui l'apprivoisent. Et plus les humains se sont trouvés groupés, densifiés, plus ils ont eu besoin d'instaurer ces règles. Le terme « urbanité », qui se rapporte à la ville, exprime la nécessité de se comporter de manière polie dans des environnements où l'on rencontre des personnes différentes que l'on ne connaît pas forcément. Bref, de faire commun de la façon la plus pacifiée possible. Mais trop d'immunité tue la communauté. Si les dispositifs immunitaires peuvent être nécessaires, tout est question de dosage. Au-delà d'une certaine dose, l'immunisation entraîne une crise de la vie sociale parce qu'elle génère des mécanismes de désocialisation. Une communauté ne peut pas s'immuniser sans disparaître. Dans ce registre, comme dans bien d'autres, la crise sanitaire que nous traversons n'est qu'un révélateur d'une tendance déjà présente dans notre société. Les mesures actuelles prises dans un souci sanitaire nous amputent pour une bonne part des éléments fondamentaux de ce qui constitue notre humanité, des besoins aussi fondamentaux que ceux liés à notre vie biologique, ceux qui font de nous des êtres sociaux. On ne saurait réduire l'humanité de l'homme à la vie au sens biologique et sanitaire. Un individu, privé de la capacité d'exercer ses attributs spécifiquement humains, sa socialité, ses projets, sa liberté, son métier, son ouverture aux autres, ses aspirations, finit par s'étioler et se déshumaniser. Dans la condition de l'homme moderne, Hannah Arendt montre comment la société consumériste et hyper-individualisée a fragilisé ses besoins sociaux, ses besoins fondamentaux, qui sont constitutifs de notre humanité, et qu'elle définit ainsi. La faculté d'instituer, de faire œuvre, d'agir politiquement, de penser, de juger et de sentir par soi-même. Ces termes sont forts. Ils nous disent que, au-delà de ces besoins sociaux dont on peut ressentir le manque de façon littéralement viscérale, il s'agit aussi pour les humains que nous sommes d'avancer sur le chemin de l'émancipation et de l'autonomie. Accepter une vie amputée de ce qui constitue notre humanité, ce serait renoncer aux idéaux de démocratie et de liberté, renoncer au projet d'émancipation, défini comme un processus conduisant, pour un individu ou un groupe, à s'extraire des rapports de domination afin d'être en capacité de co-construire les espaces du quotidien dans toutes leurs dimensions. Pour rappel, dans la pensée grecque, le commun, c'est ce que tout membre d'une cité est censé devoir préférer à ses aspirations individuelles pour que puisse exister une res publica, c'est-à-dire une communauté politique. Le commun, c'est le dépassement du soi dans l'instauration d'un nous, le je au service du nous. Il implique donc toujours une forme de réciprocité liée à l'exercice de responsabilité publique. Pierre Dardot et Christian Laval, dans leur ouvrage « Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle », qui est paru en 2014, définissent le commun comme un processus politique, une forme de coactivité caractérisée par la mise en œuvre de pratiques autonomes de discussion et de gestion collective. Le commun est toujours un agir en commun. Si nous voulons remettre de l'humain au cœur de la société, il nous faut penser le commun comme institution de l'action et de la relation humaine. Le quartier, le village, la rue, l'atelier, l'usine, le bureau, mais aussi tous les lieux de rencontre, sont des lieux où sont créés, façonnés et perfectionnés des conceptions du commun. Alors bien sûr, l'erreur serait de ne voir dans cette idée du commun qu'une nostalgie pour la communauté prémoderne. La catégorie du commun permet au contraire de dépasser l'opposition classique entre communauté traditionnelle, que l'on dit holiste, et société moderne, dite individualiste. Elle permet de penser une autre façon de faire communauté. Dans la communauté traditionnelle, l'individu est supposé assujetti à une place et à une fonction qu'il ne choisit pas. Dans le cas du commun, c'est l'individu qui s'engage dans des rapports de coproduction pour faire commun volontairement. Il est bon de rappeler ici que le socialisme a été un effort pour donner une forme politique, une morale et une coordination économique à une société qui n'était précisément plus un emboîtement hiérarchisé de communautés traditionnelles. Il avait donc le socialisme pour ambition de penser un faire commun d'individus désireux de former une association sur une base volontaire. Ce petit mot de commun, tellement commun qu'il pourrait nous sembler insignifiant, est pourtant un des mots les plus importants de notre langage. Sans commun, il n'y a pas de communauté. Sans communauté, ou sans société, il n'y a pas d'humain. Seulement des individus isolés, atomisés, immunisés. Un homme qui n'est plus rien qu'un homme n'est plus un homme, nous dit Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme. Je vous laisse sur ces réflexions et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique.